ahí va Alberto, Contador. Ahí va Alberto. Cambio de ritmo de Alberto Contador. Ahí la parte Andy final. Schleck. Como una moto,
Nibali, 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 andato. Nibali,
prova Nibali.
Grandissimo Vincenzo. Metri,
dietro si voltano, dietro si voltano.
Lasciali Watts. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lance, sort de ce corps.
Bonjour à tous, c'est Luca et bienvenue pour un nouveau débrief by 213. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième de la saison. On a vécu le premier monument ce samedi lors de Milan-San Remo. Et pour débriefer tout cela, je suis toujours en très bonne compagnie. Comment vas-tu aujourd'hui, Guillaume ?
Ça va super, victoire strasbourgeoise aujourd'hui, je suis très heureux. Et sinon, on a eu le droit à des courses plutôt sympathiques. Et on va pouvoir débriefer tout ça. Comment vas-tu, Luca ?
Bah écoute, ça va plutôt bien. Encore un week-end à vouloir m'ouvrir les veines à cause d'une stratégie Ferrari assez compliquée. Mais bon, on va dire, là on a vécu quand même, comme dit, des très belles courses récemment. On a vécu à Milan-San Remo avec un money time, encore une fois, assez incroyable. Et je te propose qu'on fasse avant tout ça un petit pas en arrière pour parler de la course du soleil Paris-Nice et de la course italienne Tirreno-Adriatico. On commence avec la course française où on attendait un premier duel Pogacar et Vingegaard et on a eu une très belle surprise, un très bel outsider, que dis-je, un très bel arbitre, David Godu.
Ouais, c'est les bons mots, peut-être arbitre, mais c'est vrai qu'on attendait un duel Pogacar-Vingegaard et au final le duel c'était plus Pogacar-Godu. Donc au premier abord on pourrait se dire que ça sonne moins sexy, mais en vrai Godu... très costaud, franchement c'était sexy pour moi, en tout cas sur ce Paris-Nice. Et en plus on ne s'est pas du tout ennuyé, les premières étapes, Poggi nous a régalé en allant gratter des petites bonifs histoire de mettre la pression sur Vingegaard, mais celui-ci reprendra un petit avantage suite à la victoire sur le fil de la Jumbo sur le chrono par équipe, qui remporte le chrono pour une seconde sur IF. Et d'ailleurs nouveau format pour le chrono par équipe, je sais pas si tu avais un petit mot sur ce format, Luca.
Ouais, format très intéressant qui a permis de voir de belles surprises, de belles tactiques mises en place. Et aussi, surtout pour moi, tu l'as souligné certes à la victoire de la Jumbo, mais pour moi ça a été une énorme déception la Jumbo. Parce que dans ton équipe, quand t'as des rouleurs comme Foss, champion du monde actuel, Dennis, double ou triple champion du monde du chrono, Affini, Vingegaard et j'en passe... Et c'est pas une seconde qu'il faut mettre à EF, c'est au moins 20 secondes. Non mais forcément j'étais un peu déçu. Au vu du format et au vu aussi de la forme de l'équipe hollandaise, je m'attendais à quand même bien mieux des abeilles. Mais au final, petite victoire.
Ouais, petite victoire, c'est vrai qu'elle n'était pas retentissante. En tout cas ils n'ont pas commencé comme sur les mêmes chapeaux de roue de l'an dernier. Et le lendemain de ce chrono, première étape de montagne, et du coup, comme on l'a souligné, le duel annoncé n'est pas celui qu'on attendait. Le dernier vainqueur du tour va craquer, il va laisser 43 secondes à Pogacar, et tandis que Godu, c'est lui le principal adversaire du Slovène, puisqu'il va finir à seulement une seconde. Sacrée montée du Français, il semblait particulièrement affûté.
Au final, il a pu anticiper en quelque sorte l'attaque de Pogacar et de Vingegaard. Il a bien joué son coup. Il s'est fait rattraper dans le final par Pogacar. Et je m'attendais à ce que même Tadej lui mette une belle menace et qu'il le fasse exploser. Mais au final, même pas. Et on le verra dans les étapes qui vont suivre que c'était pas juste une simple surprise, mais qu'il était bien là, quoi.
Tout à fait, donc on a malheureusement pas eu le droit à la sixième étape, elle était annulée à cause des conditions météo dantesques. Je sais plus c'est quel coureur qui s'était plaint qu'il faisait 60 kilos et que des vents à 120 km/h feraient de lui un cerf-volant. Bon, c'est moi qui invente la fin, mais...
Non, mais c'était Rémi Rochas sur Tirreno. Parce que Tirreno, l'étape a bien eu lieu avec le vent.
Ah, mais oui, punaise.
Et que lui, c'était bel et bien un cerf-volant sur le vélo. Et on l'a vu qu'à presque partir à la faute à cause du vent, tout simplement. Mais ouais.
C'est, ouais, j'ai mélangé.
Bonne décision quand même de la part de l'organisateur français de tout simplement annuler cette étape où on a vu des chutes d'arbres sur le parcours. Ça aurait pu très mal finir.
Tout à fait. Exactement. Et du coup, 7e étape directement, et arrivé en haut du col de la Couillole, si je dis pas de bêtises, ça sera le col de la 20e étape du Tour de France 2024, c'est ça?
Exactement, exactement.
Et bah franchement, col sympathique. On a eu droit à une très belle montée avec un Vingegaard qui semble mieux encaissé et il réussira à lâcher seulement 6 secondes à Poggi, donc il y a du mieux. Tandis que Godu, lui, encore grosse impression, il finira seulement à 2 secondes. On avait le droit à un sprint des 3 sur les 200 derniers mètres, mais Vingegaard avait complètement explosé dans le sprint après l'avoir lancé. Et du coup, dernière étape qui s'annonçait potentiellement passionnante puisque Godu n'était qu'à 12 secondes de Pogacar. Donc le rêve était quand même permis. Mais bon... Là, Pogacar, il a mis tout le monde d'accord, il était trop fort, il a mis 33 secondes au groupe Godu-Vingegaard, et du coup, bah, Poggi va s'adjuger son premier Paris-Nice devant un Godu qui était attendu certes, mais pas forcément aussi haut. On le voyait jouer plutôt la troisième place, et forcément, bah, très 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 agréablement surpris, et moi j'ai déjà hâte de le revoir en compétition, car c'est prometteur, et surtout, je veux le voir confirmé, quoi.
Mais surtout, ce Paris-Nice a permis aussi de jolis retournements de veste de nombreuses personnes dans le milieu qui disaient que Pogacar et Vingegaard étaient chargés comme des mules. Et comme par hasard, là, maintenant que Godu vole à leur propre niveau,
c'est vrai.
Ah, tout de suite, ça fait moins les malins et ça parle beaucoup moins de dopage. Mais non, globalement, on a la chance d'avoir un petit Français qui arrive à se mettre au niveau de Pogacar et Vingegaard sur une course d'une semaine. On sait qu'un grand tour, c'est encore différent, où il y a quand même beaucoup plus d'aléas qui sont pris en compte. Et bah, tout simplement, 21 étapes, c'est pas 6 jours de course sur Paris-Nice. Et puis, la forme n'est pas la même. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Mais en tout cas, c'est forcément de bon augure pour le Tour de France à venir. Et peut-être que Godu pourra viser, qui sait, plus haut qu'un simple podium, sachant que le parcours lui est quand même vachement bien adapté.
C'est vrai. Je vais parler rapidement quand même des sprinteurs. Tim Merlier confirme. Pedersen est un des hommes forts de ce début de saison. Et Lucas, je veux bien que tu m'aides, parce que je crois que tu le connais bien, mais il y a un petit nouveau qui pointe le bout de son nez, mais toi, t'étais pas trop surpris, il me semble.
Ouais, bah c'est sûr, c'est Olaf Koy qui performe vachement bien avec Jumbo, mais c'est sûrement sa dernière année aussi au sein de cette équipe-là, tout simplement parce qu'il n'a pas la place pour s'exprimer sur des grands tours ou même certaines étapes. Le problème, c'est que souvent l'équipe est tournée autour d'un leader ou malheureusement, bah, sur les grands tours, t'as un Wout Van Aert qui prend le rôle de sprinter de l'équipe.
Sprinter, puncher, classic man, voilà quoi.
Et on l'a vu forcément que Olaf Koy, c'est un très très bon coureur en devenir. Il l'est déjà.
Oui.
Et forcément, j'ai hâte de savoir où est-ce qu'il va partir l'année prochaine. Pour finir sur Paris-Nice, moi je voulais juste noter la très belle performance de Matteo Jorgensen sur ce Paris-Nice, tout simplement, avec une belle 5e place sur la dernière étape et sa 8e place au général.
Ouais, Jorgensen, je te coupe, mais Movistar, c'était une preview compliquée, mais je suis très content d'avoir sélectionné, écoute.
Et du côté des déceptions, parce qu'il y en a forcément sur ce Paris-Nice, je citerai quand même Romain Bardet qui n'était pas en grande forme, et la tactique d'Ineos qui ne fonctionne pas sans leader. Ils n'ont toujours pas compris que ça ne servait à rien de rouler pendant je ne sais combien de kilomètres, si au final... Il n'y a personne pour conclure.
C'est vrai.
Allez, on passe maintenant du côté de l'Italie avec le Tirreno. Et je sais que toi, de ton côté, tu étais assez critique sur l'édition de la course italienne.
C'est vrai que moi, personnellement, je me suis fait chier sur ce Tirreno Adriatico. La course n'était pas passionnante cette année. Pourtant, en vrai de vrai, le parcours aurait pu être piégeur. Et aurait pu donner des idées pour des tactiques farfelues. Par exemple, Movistar, peut-être qu'en faisant du pif, ça aurait pu être leur jour. Bon, j'abuse un peu, mais voilà, ce sont les coureurs qui font la course. Et cette année, il n'y a eu que peu de spectacles, malgré quelques tentatives. Déjà, on a le droit à un récital de Ganna sur le chrono qui va coller, excusez-moi, hein, mais 28 secondes au second sur un chrono de 11,5 km. C'est plus une grosse perf, c'est une énorme perf, hein, c'est dingue. Ensuite, chez les sprinters, on a eu le droit à un beau duel entre Jakobsen et Philipsen. Une victoire pour l'Hollandais, deux pour le Belge, donc un duel plutôt remporté par le Belge, mais plutôt serré. Et ensuite, on a eu le droit à la première petite explication entre les meilleurs sur la quatrième étape. Après, c'était une arrivée un peu spéciale, un peu punchy, sauf que la ligne d'arrivée était tracée 400-500 mètres après la montée. Donc, en faux plat, bien descendant. C'est un finish un peu bizarre. Mais Roglic va gagner devant Julian. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu gros sprint. Quoi. Roglic est passé devant un virage et c'était gagné. D'ailleurs, Roglic, on va beaucoup en parler là. Lendemain, première étape de montagne, arrivée groupée et à jeu là, bah, encore une fois, c'est Roglic le meilleur. Pourtant, on a eu le droit à un peu des attaques de Ciccone, Henrik Maas, mais bon, le Slovène était trop fort. Et puis, bah, rebelote encore le lendemain avec revictoire de Roglic. Quelques écarts de quelques secondes entre plusieurs petits groupes, mais voilà. Donc, au général, on a une victoire du Slovène devant Almeida, et oui, on n'a pas l'impression de l'avoir trop vu, et pourtant il était bien là, devant Tao Geoghegan-Hart. Nous avons eu le droit aussi à un très bon Ciccone qui, voilà, on va leur dire, mais cette année encore, il va nous faire mentir, il fait toujours l'inverse de ce qu'on dit. Et enfin, moi je conclurai sur un Henrik Maas qui visiblement commence à prendre goût à attaquer. Donc est-ce qu'il prend goût à attaquer ou enfin a-t-il confiance en lui?
Moi je te trouve quand même assez critique envers cette édition du Tirreno. Certes, pour l'étape Rennes, au Sasso Teto, ils n'ont pas été aidés à cause de la météo et du vent de face, qui a fait que ça a été quand même très compliqué de faire la différence avec des belles attaques. Mais on a quand même eu le droit à une jolie étape le samedi avec la traditionnelle étape des murs. Certes, le parcours change un peu à chaque fois, mais ça reste une étape qui est vraiment comme une classique et on a le droit à du beau spectacle. Après, certes, c'est sûr que quand c'est Roglic à chaque fois qu'il remporte l'étape en la faisant à la Roglic, j'ai envie de te dire, mais il n'a pas été très brillant non plus, mais il a toujours été capable de faire la différence avec sa puissance dans le final.
En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'on l'a pas vu non plus au-dessus du lot plus, quoi. Donc pour le Giro, c'est assez ouvert encore, même si on est encore à 2 mois du Grand Tour.
Et dans les enseignements qu'on a pu voir sur ce Tirreno, ça a été quand même la première fois que l'on a vu un Wout Van Aert en méforme et ne pas jouer la gagne sur certaines étapes. Et ça fait quand même un peu bizarre de le voir se relever sur des étapes où normalement il est censé remporter ou jouer la gagne.
C'est vrai.
On a également vu un Tao qui revient très très fort comme depuis ce début de saison. Pour moi, ça va être lui le leader de la formation britannique sur le Giro, surtout qu'un Timana Rensman a été très décevant sur ce Tirreno. Et comme on en parlait aussi pendant la preview de la Bora, Kamna très fort aussi bien sur le CLM qu'en montée. Beaucoup de concurrence en interne, mais pour moi, ça peut devenir le leader de Bora sur un grand tour. Et si...
J'aimerais tellement.
Et si un podium pour lui sur un grand tour cette année, ça serait dingue. Alors qu'il y a encore quelques mois, il pensait tout simplement arrêter le cyclisme sur sa saison 2021 qui a été totalement blanche. Mais... très très fort Lennart Kamna qui revient quand même très très bien.
Oui, puis moi c'est un coureur que j'aime bien, donc bon, il a encore beaucoup de temps quand même devant lui, il a seulement 26 ans.
Pour Milan Sanremo, on a eu tout simplement un combat des titans. On a eu le droit à un quatuor de rêve pour le premier monument de l'année, le Money Time qu'on connaît très bien sur Milan Sanremo, qui est on va dire du pied de la Cipressa jusqu'à la fin. Il a tenu encore une fois toutes ses attentes. Et autour de Scott Ward, de Ghana Woods, Mathieu Van Der Poel et Pogacar, on va dire il manquait juste un petit Julien Alaphilippe en forme pour les Français. Mais forcément, ça a été une très très belle édition encore.
Bah ouais, très belle édition. Et surtout, la vitesse était le maître mot de cette édition. Surtout qu'on les a vus à la télé, c'était une dinguerie. Du coup, même pas étonné, record du podio pour Mathieu Van Der Poel. Le Néerlandais a gravi le podio en 5 minutes 40 secondes, c'est soit 6 secondes plus vite que Jalabert. En 95, il l'avait monté donc en 5,46 et qui tout simplement détenait depuis cette année-là le record de l'ascension. Donc ouais, c'est un record qui a tenu quand même un paquet d'années. Moi, je me souviens, on a regardé toi et moi ensemble, et franchement, punaise, quand on les a vus arriver dans le podio, c'était une dinguerie. Surtout Post-Colan et Bilbao, puis juste après, on a eu le droit à Wellens qui emmenait un Pogacar à bloc. Puis on avait mal aux jambes, rien que les regarder. Et c'est vrai, ça, Luca, il l'avait vu tout de suite sur la course, le petit œil. Masterclass tactique de Trentin qui piège 80% du groupe dans le podio en criant la cassure. Franchement, ça, c'est vraiment ce genre de masterclass, les coéquipiers, quand ils sont vraiment derrière leur leader. Quand vous faites ce genre de choses, c'est incroyable. Donc bon, bah bravo à eux, tant pis à nous pour nos Français, mais franchement, c'était magnifique. Et après, on a eu un très beau, enfin, il faut le souligner, la lucidité de la part de Mathieu Van Der Poel quand il se retrouve au bas de la descente de la Cipressa avec Søren Kragh Andersen et Trentin. Dans un jour quelconque, il aurait tenté sa chance de loin, mais là, il savait que c'était une erreur fatale. Après, nous, avec Lucas, sur le coup, on était là en mode, pourquoi pas sacrifier Andersen, mais c'est vrai que quand on voit à quelle vitesse Wellens, par exemple, a emmené Pogacar au début du podio, bah, c'était très beau moment de clairvoyance de la part de Mathieu.
Et pour finir, on va dire du côté des déceptions, parce qu'il y en a eu quand même eu pas mal sur ce Milan San Remo. Je dirais que la première, ça a été peut-être Daly, parce que forcément, on attendait quand même beaucoup de lui, même si c'était sa première participation et qu'il était très jeune. Mais on s'était dit que, à la vue de son début de saison, il aurait pu créer vraiment la sensation. Mais on n'est pas inquiet, l'avenir est devant lui. Donc il a le temps encore pour.
Oui.
Déception également pour Girmay. Même comment on en discutait un peu ensemble. En ce début de saison, c'est pas non plus la folie pour lui. Et à voir tout simplement ce qu'il va faire sur les classiques flandriennes. Mais je m'attendais quand même un petit peu à mieux de sa part. Peut-être, c'est sûr, avoir du mal à accrocher le groupe des 4 de devant. Mais pourquoi pas accrocher le groupe Pedersen, quoi.
Ah, si c'était le Guernsey de l'an dernier, à mon avis, le groupe des 4 devant, il aurait pu très bien les tenir. Donc, un peu dommage, ça marche un peu moins bien ce début de saison. Après, voilà, il a encore du temps devant lui pour faire une belle saison, ou même si ça marche moins bien cette année, ce n'est point grave.
Déception également pour Magnus Kort. Forcément, avec son début de saison, on se disait qu'il était peut-être l'un des outsiders qui pouvait créer la sensation. Et il a été tout simplement incapable de tenir les roues même d'un Mats Pedersen. Et cette fois-ci, pas déception, mais grosse déception pour moi, encore une fois, c'est la Jumbo. Certes, d'un côté, on a la chute de Tratnik, mais seul Laporte a été vraiment capable d'aider Wout à partir de la Cipressa. Valter, il était là, mais il était dans son coin, donc au final, il a été d'aucune aide. Et encore une fois, la Jumbo qui me déçoit quand même pas mal. Hein. Donc, je suis un peu inquiet, hein.
C'est vrai qu'elle est, bah elle est quand même présente. Hein. On va pas non plus cracher dans la soupe, mais écoute, en tout cas c'est moins impressionnant que l'an dernier. On verra ce que ça donne sur les classiques pavés. Je suis très curieux du coup parce que c'est vrai que ça peut ouvrir des portes et pourquoi pas à Christophe Laporte. Mais c'est vrai que Wout, bah il était présent, mais c'est pareil. La saison de cyclo commence peut-être à peser dans les jambes. Chez Mathieu un peu moins. Bon là c'est pas la, je parle pas de la Jumbo, mais de manière générale, Mais du coup, pour venir à la Jumbo, ouais, pas grand-chose à dire. C'est moins impressionnant que l'an passé. Après, voilà, c'est la Jumbo. Hein. À tout moment, ils se remettent en ordre de marche. Surtout qu'ils ont quand même un Dylan Van Baarle pour les classiques pavés qui va bien marcher aussi. Donc, bon. En tout cas, pour l'instant, c'est moins impressionnant quand même.
Par contre, un autre qui m'impressionne, moi aussi, depuis le début de saison, c'est Nelson Paules, qui fait un petit top 10. Il arrive dans le groupe juste derrière celui pour le podium. Donc non, il continue sa très bonne montée en puissance au sein de la formation EF. Et pour parler des Français, Turgis qui finit une nouvelle fois meilleur Frenchie. Petite déception quand même pour Alaphilippe et même Cosnefroy qui n'ont pas été, selon moi, à la hauteur dans le podio. Ils sont fait prendre dans la cassure faite par Trentin. Et malheureusement, bah, après, impossible de venir chercher quelque chose de plus important qu'une place d'honneur entre la 10e et la 20e place pour les deux derniers cités.
Ouais, écoute, Alaf, moi, c'est vrai que ça peut être une déception, mais de là où d'où il revient, en tout cas, il remonte en puissance doucement, certes, mais il revient doucement. On n'aura peut-être pas non plus le Alaf d'il y a 3-4 ans. Je pense que c'est compliqué, mais il remonte en puissance, il pourra toujours aller remporter des belles courses. Avant qu'on passe à autre chose, moi je voulais juste parler du finish de Ghana, en gros bourrin. et qui je viens de voir, il a cité, j'ai produit mes meilleurs chiffres. Bah tu m'étonnes quand tu vois que les deux autres derrière, dont Wout Van Aert n'a pas pu sprinter contre un Ghana qui faisait les 800-700 derniers mètres à bloc. Bon gros bourrin. C'est vrai qu'à un moment, on se disait, est-ce que Ghana faisait semblant de faire la grimace ou aurait pu mieux collaborer pour revenir sur Van Der Poel, je sais pas, mais en tout cas, putain, ça avait l'air de siffler derrière, en tout cas.
Et pour finir sur Milan Sanremo, je tiens quand même à souligner le fait que l'UCI est en quelque sorte interdit toute moto dans le Poggio, aussi bien dans la montée que la descente. Ce qui a fait qu'il y a beaucoup moins de trafic, beaucoup moins de danger pour les coureurs. Certes, certaines images du coup auraient pu être... Enfin, on a loupé peut-être une ou deux images qui pouvaient être intéressantes parce qu'il n'y avait que la vue d'hélico. Mais j'ai envie de te dire, j'ai hâte que ce soit pareil l'année prochaine. Mais en plus de ça, tu rajoutes un petit drone. Un petit drone qui suit les coureurs aussi bien dans la montée que la descente. Parce que là, techniquement, je pense que ça peut faire le taf. Et en tout cas, c'est une très bonne... Enfin, ils ont très bien fait, tout simplement, d'interdire les motos. Parce que ça pollue en quelque sorte la course. Et là, c'est quand même beaucoup plus propre. Allez, c'est tout en tout cas pour cette partie sur le World Tour, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses, on a pris quand même pas mal de temps à revenir sur les deux dernières semaines, mais il y a eu aussi quelques autres petites courses où on a noté quelques petites sensations qui nous ont fait plaisir. La première, c'est Arvid Deklein qui débloque le compteur pour la nouvelle formation professionnelle suisse Tudor lors de Milan-Turin. Ça a été pour moi quasiment un véritable championnat du monde du sprint avec de très belles surprises, dont celle forcément de l'Hollandais qui l'a remporté, mais surtout encore une fois une déception à mes yeux, en tout cas en ce début de saison, comme l'est l'équipe Astana dans sa globalité. Mais bon, là on va dire il y avait quand même la place pour lui. C'est le bon Mark Cavendish qui me déçoit fortement et qui va quand même tout miser sur une victoire sur le prochain Tour de France.
Bah ouais, je suis d'accord avec toi. L'année, on va parler d'année de trop hein, s'il fait rien cette année pour Marc. Mais d'un autre côté, il aime tellement le vélo que bon, bah voilà, il trouve une équipe, il va pas dire non. Mais c'est vrai que saison compliquée hein. Son meilleur résultat pour l'instant, c'est 3ème sur le UAE Tour de la première étape, et sinon c'est 9 et 8 quoi. Et moi, je me pose la question, pourquoi l'avoir aligné sur Milan-Sanremo? Peut-être parce qu'il y a personne chez Astana. Mais bon, à Milan-Sanremo, quand tu vois qu'il pète à combien de l'arrivée? 40, 30 km de l'arrivée?
Ouais, il a pété dans la Cipressa. Après, on va dire Cavendish, c'est quand même un ancien vainqueur de Milan Sanremo. Donc.
Bah ouais, tout à fait, mais on voit bien qu'il est hors de forme. Alors, déjà, Cavendish, quand il était en forme. Quand il était en forme chez Quickstep, hein, je veux dire, il y a un ou deux ans, les montées, ça passait pas malgré tout. Et c'est vrai que j'étais très heureux de l'avoir gagné, mais merci le train Quickstep d'un autre côté. Après, on va pas parler de potion magique non plus, mais voilà. Pourquoi Milan de Sanremo, je sais pas. Écoute, c'était peut-être pour faire des bornes, reprendre du rythme, vu qu'il a une préparation un peu tronquée au début, vu qu'il est arrivé sur le tard chez Astana, mais bon. Compliqué, hein. Mais je l'aime toujours, voilà. C'est important de le dire. Ensuite, on va parler du week-end un petit peu en France. On a eu un week-end sur la côte ouest victorieux pour les équipes françaises. Axel Zinglé s'impose avec la manière lors de la Classique Loire Atlantique, en mettant... plus d'un vélo au deuxième, sacré sprinter. Et aussi, on a Laurens Pitty qui ouvre son compteur chez les grands, sur Cholet Pays de la Loire. Donc franchement, très propre, très prometteur pour Laurens Pitty.
Et on finit avec un... Je te propose de monter directement dans le train, parce que c'est, c'est un des plus beaux trains qui va arriver lors de ces prochaines années. C'est Antonio Morgado, l'une des plus belles moustaches du peloton et incroyable talent qui sort des juniors, vient de décrocher son premier succès en Grèce. Il n'a pas encore de contrat pour l'an prochain, mais on devrait le voir très certainement dans une top team World Tour. Et il y a quand même de fortes chances qu'il finisse chez UAE, où il y a déjà quelques Portugais, comme les frères Oliveira, comme Joao Almeida, et anciennement aussi Rui Costa, mais le petit Antonio Morgado... Faut monter dans le train parce qu'il va faire vibrer plus d'une personne dans les années à venir.
Ok, je note.
Allez, c'est tout pour 213. Merci de nous avoir écoutés pour ce troisième débrief de la saison. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et on se dit à très vite parce que les classiques flandriennes sont plus que jamais présentes. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.